Bonjour, bienvenue chez les Papous, la récré littéraire de France Culture jusqu'à 13h58. À l'affiche Madeleine, pourquoi tu déménages, le cinquième épisode du feuilleton de Jacques Jouet, et Rime de hasard pour poème façon Pouille et Beignet, suivi de la critique des beaux rimés par Jacques Abertrand et Jacques Vallée à propos du recueil de Patrick Beignet.
Dans ce recueil, le poème « Souvenir de Porto » nous conduira au festival de Dunkerque avec la jetée de harengs du balcon de l'hôtel de Vide. « Souvenir de Rome » décrira le cimetière de Douaumont et la tranchée des baïonnettes à Verdun.
Une supposition avec Odile Conseil et puis une vie de surligneur vert pour un boulot déqualifié. Et Culture Park, selon Patrice Delbourg, un clin d'œil à Jacques Brel.
Ah, la Brel-bringue, c'est la kermesse héroïque, la braderie de toutes nos mélancolies, le manège de l'inaccessible étoile qui égrainerait sur quelques chevaux de bois amputés, le carrousel de la désillusion.
Ah, bah, surtout l'entrée serait quasi gratuite.
Quasi gratuite, ouais. On ferait payer juste les flamands.
François Strossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou, plein de jeux pour sourire et vous laver la tête du poids du quotidien. Merci de votre fidélité et un grand salut à ceux qui nous rejoignent pour ce numéro des Papous à télécharger sur franceculture.fr. C'est le podcast à la demande et gratuit. Et pour ouvrir une page de publié Papou cité, imaginée par Jeanne Carillon, avec des rôles pour Dominique Muller, Patrice Caumont, Hervé Le Tellier et au piano Gabriel Godard. Musique Gabriel.
Après l'art du somme,
la divine sieste,
mes siestes sont plus belles que vos sommes,
à la recherche du somme perdu,
à sa majesté des sommes,
la sieste mode d'emploi,
100 ans de roupillon,
voici l'éloge des sommes par l'appel au lit sommeillon.
Ils font partie de ma vie, mes sommes, plus souvent l'après-midi, mes sommes. Juste après le déjeuner, c'est bon de piquer du nez. Je ne peux leur échapper, mes sommes. Quoi que je fasse, ils sont là, mes sommes. Une minute par-ci par-là, mes sommes. Je sens bien qu'ils vont venir, je ne peux me contenir. Mes yeux piquent, ma voix expire, mes sommes.
Les petits sommes font les grandes siestes.
Moi qui suis fille des nuits, en somme, le coup de barre de l'après-midi m'assomme. Je trouve des subterfuges, le café est mon refuge, mais rien ne peut remplacer mes sommes, car ils viennent de la nuit, mes sommes, m'accompagnent dans mon lit, mes sommes. Ils sont mes princes charmants, je suis leur belle sommeillant, ce sont de tendres amants, mes sommes.
Abondance de somme ne nuit pas.
Mais parfois ils sont brutaux, mes sommes. Ils malmènent mon ego, mes sommes. Ils m'ordonnent de dormir, impossible de me retenir. Oh que c'est un doux martyr, le somme.
Chassez le somme, il revient au galop.
Lové au creux de Morphée, en somme, je goûte la volupté des sommes. Ils gomment mes traits tirés, mes yeux creux noirs et cernés. Je suis fraîche après avoir piqué un somme. Heureuse et revigorée, en forme, d'avoir succombé croquer la pomme. Du roupillon insatiable, fait de rêves inavouables. Vive les siestes non coupables. Les sommes.
Après une grasse matinée, rien ne vaut un petit somme avant d'aller se coucher.
Alors, rejoignez vite la belle au lit sommeillant dans son éloge des sommes.
Bon, c'est pas encore l'heure. À noter, entre le pont du 1er mai et celui du 8 mai, nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain, le 5 mai, pour les Papous, entre deux ponts. Nous serons à Paris en public au studio 105 de la Maison de la Radio. À 20h, vous êtes tous les bienvenus. 11 Papous sur la scène du studio 105 pour jouer à quelques-uns de vos jeux littéraires papous préférés. Jeanne Carillon, Hervé Le Tellier, Patrice Minet, Sophie Divry, Jacques Jouet, Jean-Bernard Puy, Jacques Vallée, Eva Almassy, Lucas Fournier, Gabriel Godard et moi, tous prêts à la moindre facétie pour vous faire sourire et rire. Vendredi 5 mai de 20h à 22h30, les papous entre deux ponts, entrés par le hall A face à la Seine. Plus de renseignements sur notre page papou et sur franceculture.fr. Les papous du jour avec notre feuilleton. Le prénom de notre nouvelle héroïne, Madeleine. Celui de son mari Charles ou Charles, selon son humeur. Madeleine a une humeur capricieuse. Elle ne se plaît jamais tout à fait là où elle est. Souvent femme varie, ou bien pas longtemps. Et quand elle s'ennuie, eh bien elle déménage avec son Charles. Sympathique, Charles est plutôt bonne pomme. Il se laisse entraîner, dit soudain, à Clermont-Ferrand, puis au Miellette à Aigurande sur Bouzanne. Quel parcours! Et puis il prend l'avion pour Tokyo, où nous les avons quittés en plein projet de retour dimanche dernier. Cinquième épisode aujourd'hui du feuilleton de Jacques Jouet.
Madeleine, mais pourquoi tu déménages? Et pour aller où? T'es pas bien là où tu es? Non. Madeleine et Charles, après Tokyo, avaient envisagé de s'installer à Nevers. Mais Nevers n'avait pas voulu d'eux. « Je ne le sens pas, Nevers », avait dit Madeleine. « C'est un nom de ville trop négatif. J'ai fait un rêve. Charles, I had a dream. » On me disait dans mon rêve, on, c'était une employée de l'office du tourisme de Hénin-Liétard. Je ne sais pas pourquoi Hénin-Liétard, les rêves, c'est vraiment bizarre des fois. On me disait, « Si tu ne vas pas vers Nevers, ce n'est pas Nevers qui viendra vers toi. Mais ne verse pas la botte de Nevers ni le vase de Nevers. » Qu'aucun peintre ou romancier n'a peint, ni Horace Vernet, ni Jules Verne, Verneux Nevers. Pourtant, Charles, mon Charles, qui porte si élégamment le prénom de Baudelaire, il faut bien déménager. Le Japon tremble vraiment trop sur ses bases, même ses bases américaines. Je veux bien, dit Charles à Madeleine. Mais réponds, Madeleine, réponds tout de même une bonne fois à trois questions. 1. Pourquoi déménager? 2. Et pour aller où? 3. On n'est pas bien là où on est? Non, dit Madeleine. Je suis tellement mieux là où je ne suis pas. Comme disait Baudelaire. Ton patron, Charles? Je sais. Eh bien, c'est entendu, dit Charles, mais cette fois, une fois n'est pas coutume. Quoi, Charles? Chut, c'est moi qui choisis notre point de chute. Tu ferais ça, Charles? Tu es merveilleux. Eh bien, c'est d'accord, je te fais confiance, toute confiance. Vas-y, défonce-toi, Charles, défonce-moi. Non, qu'est-ce que je raconte? Fais à ta guise, Charles. Charles est interloqué, il ne s'attendait pas à cela. Merci Madeleine, écoute, tu es formidable. Nous allons aller nous installer à Maubeuge. Ah non, pas question, dit Madeleine. Maubeuge, ah non, je préfère encore Nevers ou Béthune à la rigueur, mais d'accord, bon, coupons la poire en deux, Charles, en ton honneur, allons plutôt à Charleville. Mais hier? Non, non, aujourd'hui, pourquoi remettre au lendemain ce qu'on ne peut plus faire la veille? Non. Charleville, Charles. Charleville, ta ville. Charles. D'accord, dit Charles, pris de court, sans enthousiasme, mais alors sans aucun enthousiasme du tout. D'accord, Charleville. Charleville. Comme si c'était la ville de Charles. Alors que tout le monde sait bien que Charleville, ce n'est que la ville d'Arthur, Rimbaud, ce poète minable, surévalué, dopé, ce préado attardé à trafiquer des armes. Alors vraiment, Madeleine, toi qui aimes Baudelaire, nous enterrer à Charleville, la ville de ce teenager boutonneux dont les sous-vêtements sentent l'étable, c'est presque insultant. Merde alors! Là, là, calme-toi mon Charles, calme-toi, tu sais bien que la jalousie est mauvaise conseillère. Allez, fais ta valise, sans rechigner ni ronchonner, comme un vieux sanglier des Ardennes. Nous allons à Charleville, c'est décidé, nous allons à Charlesville. D'accord, dit Charles. Et de fait, ils arrivent à Charleville. Oh, regarde Charles! Un hôtel Arthur Rimbaud. Oh, le bistrot, regarde, il s'appelle le Bateau Ivre. Oh, regarde, boulangerie Arthur Rimbaud. Charcuterie Rimbaud. Maternelle des voyelles. Oh, école de garçons Paul Verlaine. Collège et lycée Arthur Rimbaud. Et cette affiche, samedi prochain, toute la nuit, des illuminations par toute la ville. Oh, et cette enseigne de primeur, là, fruits de saison en enfer. Wow, gymnase Arthur Rimbaud, clinique Arthur Rimbaud, EHPAD Arthur Rimbaud. C'est bien ce que je craignais, dit Charles, la mort dans l'âme. Et dans leur appartement ancien, qui donne sur la place taillée en mesquine pelouse, Charles, ostensiblement, a sorti son Baudelaire qu'il dispose sur la cheminée, allumée. En position dominante, il lit « Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir ». Pendant le temps de ces entrefaites, Madeleine, les bras nus, il fait une belle journée de juin, est allée se promener au bord de la Meuse. Il y a là qui dort au soleil un jeune homme dont les poches de jeans sont retournées et trouées. Les genoux du dit jean ont chacun un large trou. Son paletot n'est pas très vaillant. Les godasses tiennent avec de gros élastiques qui maintiennent fermés les semelles qui baillent. Sur le côté droit, le cartable kaki. Les initiales AR sont taguées au gros feutre noir sur le rabat avec une feuille de classeur trouée avec deux œillets collants rouges. C'est un lycéen. Madeleine a failli buter sur lui et s'affaler à son côté. Elle a dit pardon. Le garçon grogne et soulève une paupière. Il a les yeux très clairs et de grosses mains, des oreilles qu'on dirait taillées en pointe. Il sourit et ses canines sont pointues. Il dit « Tu veux faire l'école buissonnière avec moi ?» Et la sève et du champagne vous montent à la tête. Madeleine s'enfuit et court encore. Elle arrive chez elle hors d'haleine. « Charles !» « Que se passe-t-il, mon cœur ?»« J'ai vu le diable !»« Diable ?»« Le diable !»« Mais non, il n'y a aucun diable à Charleville, Madeleine. » »« Il y en a un, je l'ai vu, c'est un lycéen, il ne sait pas quoi faire. Il ne veut rien faire de ses 10 doigts, il ne veut rien faire. C'est un punk, Charles. » « Tu y vas, dit Charles, à mon avis, à côté de Baudelaire, ce ne peut être qu'un enfant de cœur. Tu crois ? Mais oui. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu as vu à Charleville ? Moi ? J'ai lu Baudelaire. Tu as lu Baudelaire à Charleville ? Bah oui, pourquoi pas. On s'en va, Charles, on s'en va. Non, déjà ?
Ce soir, je te préviens, on déménage ce soir, on déménage tous les étages. Ce soir, je vous préviens, on déménage ce soir, on déménage tous les étages.
Brigitte Bardot, on déménage.
Quelle mèche va chère ma pote à pas pour que la feuille ben.
Les papous, c'est dans la tête sur France Culture. Un des jeux auxquels nous jouerons en public vendredi prochain est celui des bourrimés. D'ailleurs, je vous demanderai de participer au choix des mots, vous qui serez dans la salle, pour les poèmes. Alors, arrivez avec vos mots, des bons mots, des mots qui stimulent l'imagination. Aujourd'hui, eh bien, ces mots ont été jetés 2 à 2 sur des petits papiers, ensuite mélangés dans un chapeau. Tous les papous autour de la table du studio ont participé au choix des mots. Eva Almassy, Jacques Bertrand, Ricardo Mosner, Jacques Vallée et même Jean-Bernard Pouy et Patrick Beignet qui seront nos poètes du jour et qui peuvent très bien tomber sur leurs propres mots et rimes et les accepter ou pas. 4 refus possibles. 10 couples de mots à tirer au sort pour écrire chacun un poème de 20 vers. Ensuite, place à la critique des bourrimés par Jacques Bertrand et Jacques Vallée. Alors, d'abord, le bruit délicieux des papiers. Oui, remuez bien que l'on tripote fébrilement pour en choisir un premier, Patrick Beignet.
Versailles, Tressailles, propose Eva.
Ça vous plaît ?
Bon, c'est difficile de refuser une chose pareille.
Oui, me semble. Très bon tirage. Ensuite,
pêle-mêle, maquerelle.
C'est de
Ricardo.
Ricardo Mosner, pêle-mêle, maquerelle, avec Versailles et Tressailles. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, bon, c'est très théâtral.
Oui, la maquerelle, Tressailles.
En voyant Versailles.
Voilà.
Et le poème est écrit.
Voilà, dans ces papiers qui sont pêle-mêle, je choisis un autre qui s'avère être de Ricardo. Répertoire ivoire.
Très bien.
Très bien. Ça fait
rêver. Ah, ça, c'est joli, ça.
Oui. L'ivoire.
Ah oui. D'accord.
Défense d'ivoire.
Vous êtes choisi, Ricardo, avec des compliments. C'est agréable.
C'est très agréable.
Il fait les progrès à chaque fois. En français, c'est bien.
Oui.
J'en tire encore un.
Oui. Deux, même. Deux. Oui.
Alors, voici un. Il a l'air très intéressant. Eh oui. Toto Christo. C'est moi-même qui ai eu l'ingéniosité de rassembler ces deux.
Moi, ces j'aime deux bien mots, le ouais. côté. Les histoires de Toto, j'adore.
Oui.
C'est Toto AUX.
Ah oui, mais non, Toto avec un H, c'est bien aussi.
Et Christo, AUX également.
Avec un H, Toto.
Bon, nous prenons. Vu l'enthousiasme.
Bah non, si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Bah,
moi, c'est de pas, Patrick Beignet,
oui,
je suppose.
Oui, pour qu'on le prenne. Enfin.
Voilà.
Voilà, allez, cinquième couple, Patrick.
C'est de moi-même à nouveau. Pelisse, réglisse.
Le premier, c'est
Pelisse.
Pelisse.
Oui.
J'adore le réglisse, moi. Donc, oui.
Ça fait passer la pelisse.
On dit le réglisse
non,
ou la
on dit
réglisse,
la réglisse.
Oui,
moi, je dis le
là.
Réglisse.
Ah, parce que sous-entendu le bâton de.
Oui, enfin. Oui. Notre génération, n'est-ce pas, JB, disait.
Voilà, j'ai du réglisse, on n'achète pas de la réglisse.
Bah, voilà, on laisse ça aux femmes.
Enfin, je précise quand même que nous sommes plusieurs à voter pour la réglisse.
C'est la réglisse.
Oui, mais c'est certainement plus correct, mais il y a un usage parmi les écoliers d'autrefois.
Et on disait un bâton de réglisse. Donc ouais.
Et vous disiez le roux doudou ou la roux doudou.
On disait le rouge et le noir, par exemple.
Madame Réglisse.
Allez, on passe le chapeau à Jean-Bernard Pouy, qui remue et qui a la main heureuse. On le souhaite pour lui.
Je crois que c'est Eva. Mimosa Spinoza.
Ah, c'est bien. Enfin, je trouve. Hein. Vous aussi.
Ça rime, en tout cas.
Ouais, je note quand même. Alors là, j'ai tiré le mien.
Ah, aussi.
Formidable. Farcir et saphir.
Farcir et saphir.
C'est un verbe, c'est une bonne chose.
Oui, c'est bien d'avoir des verbes. Farcir, saphir. Le saphir à Versailles devait être très porté.
Le saphir en réglisse, c'est bien.
Huitième. Il n'y a pas eu de refus pour le moment.
Ah, c'est encore
formidable.
Moins. Pascal. Et oui. Chacal.
Pascal,
le Pascal, oui.
Le philosophe et Chacal.
Le prénom, ce n'est pas nécessairement.
Si, tu peux mettre prénom. Ce que tu veux.
On est 500 francs.
Vous prenez,
oui,
Patrick
bah, oui.
Sans enthousiasme.
Bah, non, mais je sens déjà que je vais dissocier Pascal et Chacal.
D'accord.
Enfin.
Après.
De Patrick Beignet.
Aïe.
Boudin, Badin.
Ah,
ça, j'adore, moi. Ça
Boudin, fait. Badin, c'est
oui.
joli.
Vous avez remarqué, on n'en a refusé aucun. Hein.
Non.
Ça, c'est un signe de très très bonne composition de notre part. Donc, il n'en reste plus qu'un.
Oui, absolument.
Peut-être un refus, enfin.
De Jacques Bertrand. C'est une joie de lire la prose de Jacques Bertrand.
Même les vers.
Vinasse. Ah non. Vince. Bonjour, Vince.
Ah, ça n'a rien à voir avec Vinasse.
Encore
ouais.
Vince.
Vince.
Saint-Paul de Vince. Et pince.
Du verbe venir, donc.
Ouais. Apparemment,
un subjonctif.
Venir, oui.
Moi, je dis qu'il n'y a pas, je serais pour.
Refuser bon, Jacques Bertrand.
Ouais.
Bon, c'est votre
refus.
Si c'était la vinasse, nous eussions pris.
La vinasse
ouais. Oui, mais ça aurait beaucoup moins bien rimé avec pince.
Il y a du vrai.
Élection, érection de la part d'Eva.
Drôle,
moi, j'en veux pas, parce que les élections en ce moment. Excuse-moi, Eva.
Bon, ben, c'est pas grave.
Les érections, en revanche.
C'est plus rare.
Et c'est moi, là. Bignou et voyou.
Ah,
oh,
ça, c'est,
formidable.
Ça, c'est de la rime. C'est le bignou ou la bignou.
Le bignou.
Et le voyou. Alors, je récapitule. Versailles, Tressailles, pêle-mêle, maquerel, répertoire, ivoire, Toto, Christo. Pelisse, réglisse, mimosa, spinoza, farcir, saphir, Pascal, chacal, boudin, badin, bignou, voyou. Que des jolis mots, très inspirants. Jean-Bernard Pouy, Patrick Beignet, il n'y a plus qu'à écrire les poèmes.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you.
Jean-Bernard Pouy, Patrick Beignet. Rebonjour, on a écouté une petite
Bonjour.
Musique. C'était le temps de votre écriture, enfin pas tout à fait, parce que vous avez eu en fait 30 minutes. faut bien dire la vérité et non pas 30 secondes. Vous voulez bien tous les deux nous relire les mots imposés à la rime ?
Versailles, Tressailles, pêle-mêle, maquerelle, répertoire, ivoire, Toto, à lui, cristaux.
Qui sont des mots de Patrick Beignet et il y tient.
Pelisse, réglisse.
Et la suite, Patrick Beignet.
Mimosa, Spinoza, farcir, saphir, Pascal, chacal, boudin, badin, bignou, voyou.
Des bons mots. On peut dire que vous aviez eu un tirage au sort assez heureux.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots de Patrick et beaucoup de moi.
Voilà, exactement. Donc vous étiez servi.
Nous avons resté les autres.
Exactement. Plus de Zéva. Alors Jean-Bernard Puy, on est dans quelle atmosphère avec vous ? Quel est le mot qui vous inspire ?
Spinoza.
Ça ne m'étonne pas de vous, ça.
Donc il y a un petit côté Versailles, un petit côté grand siècle.
Oui, avec Spinoza.
Même si c'est pas le même siècle, c'est pas grave.
Ben, oui, bon. Et Alexandrin, oui, c'est ce que vous aimez. Là,
oui, parce que c'est pas compté jusqu'à 8, donc c'est jamais d'autosyllabes. Et ça s'appelle l'éthique des pensées.
L'éthique des pensées.
Ben, oui, parce que quand on a Spinoza et Pascal dans le même texte, on peut en faire autrement.
Et ça figure dans un recueil, non ?
Oui, qui s'appelle « Les philosophes entre eux ».
Ah oui, c'est un ouvrage un peu didactique.
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, parce que comme chacun sait, je comprends absolument rien à la philosophie. Bon. Oui. Or, un affreux conseil contraria Spinoza, alors qu'il visitait le château de Versailles. Il cria « Ah, mon cœur, mon Dieu, que je tressaille !» et s'écroula soudain sous un gros mimosa. Et l'on vint de partout, servantes et maquerelles, on lui servit du rhum, avec de la réglisse, on lui mit un chapeau et puis une pelisse, on s'agita beaucoup, mélangé, pêle-mêle. On fit venir de Brest un joueur de bignou, on servit un agneau qu'on venait de farcir. On lui offrit aussi une bague en saphir, et pour le divertir, on pendit un voyou. On récita bien haut des vers du répertoire. On lui lut du Bossuet, avec un ton badin. On lui offrit de l'ambre, du musc et du boudin. Rien n'y fit, son visage garda un ton d'ivoire. Et éclatant soudain, d'un rire de chacal, il dit « Moi, les ennuis, j'en ai eu de Toto, et déjà je n'ai eu souvent que les cristaux. Jamais on m'a forcé de lire du Pascal. »
Ah oui, oui.
Bah oui, c'est ça.
Eh ben oui, c'est ça le propos, oui. Oh, c'est magnifique, somptueux. Puis quelle personnalité il a.
Spinoza, oui.
Oui. C'est encore
ça
plus lisible chez vous, oui. Jacques Bertrand, bon, je sais que vous êtes un peu un fan de Jean-Bernard Puy, vous lisez tout ce qu'il écrit, il en écrit beaucoup.
Oui, 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 tout à fait.
Donc, vous avez découvert, comme nous, l'éthique des pensées et tout le recueil, parce que vous travaillez aussi dans une certaine revue pour laquelle vous lisez principalement de la poésie et vous avez fait un petit article, c'est ça ?
Tout à fait.
Ouais, c'est quoi ?
C'est exactement ça. Alors la revue, c'est la Gazette du Gerbier de Jonc.
Ah oui ? Je ne connais pas, mais ça doit être connu dans le quartier. Oui.
Non, au pied du Gerbier de Jonc, c'est assez connu.
Oui. Ouais.
Et je tiens la rubrique « Dernières nouvelles des muses ».
Ah, très bien.
Donc, je
reçois, approprié.
Je reçois,
Et vous avez quand même quelques abonnés ?
Une bonne centaine.
Ah oui, c'est bien ça, c'est très très bien.
Une centaine.
Alors qu'est-ce que vous écrivez sur le
recueil ? Vous ne serez pas tous, mais...
Non, bah non, il y a de la déperdition. Hein.
Et alors donc j'ai reçu le recueil de Jean-Bernard Puy.
Oui.
Avec un grand plaisir, que je l'ai placé tout de suite sur le dessus de la pile. Parce que c'est incroyable ce que les gens publient comme recueil de poèmes. Nul poète n'aurait osé faire en même temps rimer et mourir Spinoza avec et sous un gros mimosa.
Oui.
Jean-Bernard Puy l'a fait. De l'audace, toujours de l'audace, telle est la devise de ce versificateur de haute lignée qui descend par ailleurs de Danton par une branche collatérale. De la rigueur dans la construction, l'art de sertir la rime avant de la servir, telle est sa marque. Il libère au passage l'Alexandrin, qui fut assujetti pendant plusieurs siècles à être ferré sur 12 pieds exclusivement.
Oui.
Il en libère quelques-uns. Que faut-il essentiellement à la poésie ? Nous dirons de la pensée. Jean-Bernard Puy en met partout, à la mode de Pascal, un peu trop peut-être.
Oh,
au bout d'un moment, on ne s'entend plus penser. Le tic de l'éthique finit par faire tiquer. Mais il y a la fantaisie. Quelle drôlerie que le fait d'amener entre deux réflexions métaphysiques le divertissement d'une pendaison.
Ah oui.
Et le biniou.
Ah oui, ça c'est la trouvaille,
que,
oui.
Que serait un poème sans un biniou? Une rengaine, une scie, pire, de la prose.
Bon, alors, il y a deux ou trois petits bémols, mais oh, très légers, hein, le reste est extrêmement élogieux.
Comme c'est toujours pareil, parce que c'est les seules critiques que je reçois, oui. C'est lui. Donc je les garde aussi.
Ouais.
Il joue jamais du violon. Hein.
Non.
Il garde un quant à lui.
Un quant à soi, oui. Oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il en fait pas trop dans le compliment, donc ça n'a pas l'air d'être voilà, une critique sur un ami.
Non, alors que...
Bon, alors que ça l'est.
Alors qu'il l'a eu gratuit, le livre.
Alors, Patrick Beignet, vous avez joué avec les mêmes mots à la rime.
Eh oui.
Est-ce que vous avez la même histoire? Non.
Sûrement. Mais pas si loin que ça.
C'est pas
vraiment
vrai.
Les mêmes mots, les mots ont...
Ah, ben les mots étaient forts.
Eh oui, oui. Ouais. Spinoza en particulier ouais. a travaillé, quoi.
Plus que Pascal.
Plus que Pascal. Mmh. Je ne suis pas de taille comme Jean Bernard à assembler les deux en quelques vers. Donc j'ai éliminé Pascal.
Et vous choisissez l'Alexandrin, vous aussi?
Ben oui, bien sûr.
Oui.
Quel autre vers pour Spinoza?
Ah ben je me pose la question, oui. Alors évidemment, vous avez un titre qui n'est pas le même.
Ah non, non, non.
Vous voyez?
C'est un titre un peu terne, mais j'aime dans ma poésie prendre des titres un peu ternes. Ils ne promettent rien.
Ils ne promettent rien.
Ouais. Non, non, non.
Ah, le titre. Ah oui, je trouvais que c'était un bon titre.
Non, je vous le laisse. Non, non, mon titre, c'est Souvenir d'Amsterdam.
Oui.
Dans mon recueil qui s'appelle La pensée comme elle va.
Ah, c'est ouais. Un joli titre. Hein,
oui, ce sont des titres discrets, quoi. Je n'essaie pas d'attirer l'attention.
Ah oui, mais en même temps, la pensée comme elle va, ça laisse libre cours à l'imagination, c'est pas contraignant, donc oui, on sent le souffle de la liberté, n'est-ce pas Jacques Abertron?
Absolument, je vous demanderai une préface, François.
Avec grand plaisir, on vous écoute.
Souvenir d'Amsterdam. Surexcité, je cherchais dans mon répertoire téléphonique le numéro de Pascal. Pascal, mon vieil ami, aussi laid qu'un chacal. Je fis son numéro sur le clavier d'ivoire. La sonnerie au loin sonnait comme un biniou sur la lande bretonne corne le mimosa. Ça, c'est un peu fantaisiste.
Non, mais c'est bien, ça crée de l'image. C'est cinématographique. Quoi.
On décrocha soudain. C'est ici Spinoza, dit la voix, sur un ton de petit voyou. Je t'imaginais enroulé dans ta pelisse, relisant ton livre avec un air très badin, t'apprêtant à manger un excellent boudin qu'on a fait rissoler dans la sauce aux réglisses. Le boudin, c'est bon quand on a su le farcir d'une foule d'épices ajoutées pêle-mêle sur la recette d'une vieille maquerelle dont le doigt s'orne d'un remarquable saphir. Ainsi va la vie. Tu vas, tu viens, tu tressailles, philosophe à l'esprit tout rempli de toto. Ton cerveau génial est un amas de cristaux et ton âme étonnée chemine dans Versailles.
Ah, oh là là,
ah, là, 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 là. Ça me rappelle une anecdote. J'ai accompagné des Hollandaises à Versailles.
Oui.
Et quand elles ont vu les écuries, ils ont dit « Mais pour notre reine, ça suffirait comme château.
» Et figurez-vous, bonne nouvelle, que Jacques Vallée a écrit un petit papier sur votre livre, Patrick Beignet.
Dans mes rêves les plus fous, je
ne sais pas. Qui, voilà, qui mieux que Jacques Vallée pourrait parler à notre micro des papous dans la tête de poésie.
Et là, je découvre la poésie de Patrick Beignet.
Oui, c'est assez nouveau, il n'en produit nouveau, pas tous les jours. Ça, oui. Oui. C'est rare, donc précieux.
Oui, c'est très précieux.
Vous écrivez dans quelle petite revue ou grande?
Non, c'est une petite revue qui n'est pas encore très connue, que je pense qu'elle ne sera peut-être jamais connue. Elle s'appelle « Les piquants du rosier ».
Ah, c'est pas mal.
Et c'est une revue que j'ai fondée il n'y a pas longtemps et je pense qu'elle est connue peut-être dans ma rue, mais peut-être pas plus loin.
Et donc, ce sont des articles qui attaquent un peu, quoi.
Il faut toujours être un peu critique quand on parle de poésie. J'ai intitulé cet article « La pensée baladeuse » de Patrick Beignet.
Oui.
Je viens de découvrir la pensée comme elle va, et cette pensée va bien. Cette pensée va loin. cette pensée nous emmène dans des endroits inattendus. Ainsi, dans le souvenir d'Amsterdam, Patrick Beignet nous conduit en Bretagne et nous fait entendre avec la sonnerie du téléphone le son d'un biniou sur la lande où l'on sent l'odeur jaune des mimosas en fleurs. Préparez-vous donc à vivre tous les dépaysements possibles. Quelques exemples. Dans ce recueil, le poème « Souvenir de Porto » nous conduira au festival de Dunkerque avec la jetée de harengs du balcon de l'hôtel de ville. « Souvenir de Rome » décrira le cimetière de Douaumont et la tranchée des baïonnettes à Verdun. Enfin, « Souvenir de Rabat » évoquera, non sans émotion, les folies bergères. Une autre particularité de ce recueil enrichissant et qui nous permet de feuilleter le répertoire téléphonique de Patrick Beignet, un signe de grande confiance envers le lecteur. Si, dans le souvenir d'Amsterdam, nous faisons connaissance avec son vieil ami Pascal, nous apprenons au passage qu'il est laid comme un chacal et qu'il adore le boudin, nous faisons connaissance tour à tour avec Bruno, qui habite Dunkerque, Hubert, Verdun, Jules, Besançon, Ernest, Martigues, etc. Je vous recommande la rencontre avec la ravissante Léa qui danse le French Cancan. À chaque fois, l'auteur nous fait découvrir les goûts culinaires de ses nombreux amis. Confidence passionnante à la hauteur de cette pensée qui voyage. Disons que cette poésie permet de redécouvrir toute la richesse du terroir français, tout en vous entraînant dans les quatre coins du monde. Une prouesse, bravo. Une poésie émouvante qui est surtout une poésie déroutante.
Oh, bah, il pique les piquants du rosier, d'accord, mais pas trop quand même. Hein, c'est assez ça donne envie flatteur.
De ça, livre, oui.
Ça donne envie de le lire, quoi.
À moi-même, ça donne envie.
En tout cas, c'est somptueux. Vous avez tous les deux écrit des poèmes magnifiques.
Je crois, oui.
Ah, oui, c'est eh ben, bravo.
Surtout pour Patrick. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day. Day and night, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Day and night, under the heart of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me, and this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day.
Eh oui, night and day. Hélène Méril. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, au micro François Strossard. Et la bande des papous du jour à suivre, une vie de surligneur, puis le Culture Park, imaginé par Patrice Delbourg avec les points de vue de Ricardo Mosner et Eva Almassi. Et pour finir, le joli dimanche de Lucas Fournier. Mais d'abord, Odile conseille pour le jeu des suppositions, un jeu cher à Prévert. Il y jouait avec Marcel Carnet entre deux prises de vue de leur film au bistrot. C'est un jeu de gamin. Mais qui a ses lettres de noblesse, suppose que tu t'appelles. Suis un nom un peu brinzingue et une histoire à la chute calembourgeoise et cependant culturelle. Odile conseille à qui proposez-vous votre histoire?
Eh bien, par exemple, à Jean-Bernard Pouy, qui est juste en face de moi. Je vais donc pouvoir le regarder dans les yeux en parlant. Suppose, Jean-Bernard, que tu t'appelles Kant.
Kant.
Alors, ça s'écrit comme Kant, le philosophe, mais ça se prononce Kant, comme dans la phrase « dit quand reviendras-tu » ou « quand je pense à Fernande », un mot qui peut être conjonction ou adverbe selon. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, qui n'a rien à voir avec toi, Kant, car de la grammaire, tu n'as rien à faire, pas plus que de Heidegger ou de Schopenhauer. Ton modèle, c'est Arsène Lupin. Tu surfes frénétiquement sur les sites de rencontres pour trouver une âme sœur qui s'appellerait Brioleur. Ensemble, vous seriez cambrioleurs. Les gazettes vous encenseraient, la police piétinerait, les fans vous aduleraient. Chaque soir, tu caresses ce projet et ton chat en relisant Maurice Leblanc. Mais comment devient-on Arsène Lupin ? Il n'y a pas d'école de la cambriole, pas de licence de fric-frac, pas de master pro de dévaliseur. Comme tu es obstiné, tu finis par faire la connaissance d'un malfrat qui accepte de te prendre sous son aile et de t'apprendre le métier. Tu es à bonne école avec lui, tu apprends à subtiliser avec élégance un portefeuille, une montre, un bijou. Un jour, il t'estime prêt à te lancer dans l'action pour de vrai. À ce moment-là, tu penses qu'une négociation financière s'impose. « Je serai payé comment ?» demandes-tu au boss. « On fait 50-50, non ?» Le boss s'étouffe de rire. « Et pourquoi pas une fiche de paye tant qu'on y est ?»« Écoute mon gars, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai investi sur toi du temps, beaucoup de temps. » Et comme tu le sais, le temps, c'est de l'argent. Alors jusqu'à nouvel ordre, pour chaque bijou, pour chaque toquante, pour chaque larfeuille que tu me ramènes, tu toucheras un fixe. Un petit fixe, mais quand même. Et ce sera combien, mon fixe ? Oh, dessous du volcan.
Dessous du volcan. Oh là là, vous l'aviez vu arriver,
Pas du tout,
parce que je vous voyais extrêmement concentré.
Et pourtant, Malcolm Lowry est une
au-dessous du volcan.
Un de mes écrivains préférés, mais je ne l'ai pas vu arriver.
Mais elle a donc très bien choisi le destinataire de son histoire.
Elle a donc très bien choisi, tout était absolument parfait.
C'est le mot de la fin.
Oui.
J'adore quand c'est spontané.
Bah, il
l'est, là. Être une chose... Savoir que toute sa vie on sera manipulé, peut-être même utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles on a été fabriqué. Combien de livres se retrouvent par terre pour caler un meuble? Combien de pièces de puzzle sont coincées dans les rainures des vieux parquets? Combien de ravissants gants de toilette finissent le nez plein de cirage contre une chaussure? Mais attention, le sort des choses n'est pas toujours négatif. Une chose peut avoir ses moments de plaisir et certaines ont même des jobs agréables. Une vie de parfum doit être une vie délicieuse. Jacques Jouet, racontez-nous un peu vos états d'âme, puisqu'aujourd'hui, au Papou, vous êtes dans la peau d'une chose, quelle chose ?
Si j'étais un homme, je serais un homme important, genre académicien, habit vert. Si j'étais un animal, je serais un lézard, peau verte, mais un lézard actif, pas du genre à glander au soleil. D'ailleurs, le soleil ne me vaut rien. Si j'étais un végétal, je serais une feuille de bananier qu'on accroche à sa fenêtre pour prévenir que la voie est libre. Mais je ne suis rien de tout ça. Je suis un objet, je suis le surligneur vert.
Ah, c'est bien ça.
Je suis passé d'un rayon très coloré de la papeterie où je me trouvais en attente avec une cargaison de mes semblables à la main de la dame qui est là, à son bureau, vous la voyez ? Qu'est-ce qu'elle est belle ! Qu'est-ce que sa main est élégante ! Le jour où elle m'a choisi, je suis vraiment devenu quelque chose. En un instant, j'ai cessé d'être un produit. C'est qu'elle m'a parlé. En me choisissant, moi, parmi tous les autres surligneurs, les jaunes, les oranges, les bleus, les roses, les lavandes, elle m'a dit « Toi, tu vas venir avec moi. C'est toi que j'ai choisi avec ta pointe biseautée. Je t'ai choisi parce que tu es vert. » J'étais pas peu fier qu'on me parle sur ce ton. C'est bien la première fois dans l'histoire des fournitures scolaires ou bureautiques qu'un modeste surligneur vert se voyait caresser d'une main tendre, laquelle main, égard particulièrement précieux, avait verni ses ongles également en vert pour accompagner le vert d'une robe en lainage moulante. De ce jour où je fus embauché, et sans période d'essai, tout de suite avec un CDI, il faut le noter, c'est vraiment une bonne maison, j'étais prêt à agir, à répondre au quart de tour dans le bureau de la patronne, de répondre à ses desiderata. C'est ce qu'on m'avait appris à l'usine. Tu vas passer délicatement sur certains mots d'un texte, une phrase, un paragraphe, non pour les effacer, mais pour les valoriser, les sortir de leur anonymat ou de la terrible égalité qui est le lot d'une page de dossier. Laisse ta trace à la fois légère et indélébile, lumineuse et fluo, aide à faire le partage entre les choses négligeables et celles qui sont de première importance. Il y aura très probablement un moment difficile, celui que tous les surligneurs connaissent et dont ils souffrent avant de se faire une raison. L'utilisateur du surligneur lit son dossier, l'étudie, le plus souvent avec fébrilité, et ce faisant le triture dans sa main de façon agaçante, voire malheureusement le porte à la bouche, et le suçote. le mordille, si bien qu'il laisse dans sa chair de plastique des traces de dents profondes. J'étais prêt à tout cela que nos ingénieurs présentaient comme la règle, et qui était en quelque sorte la raison de l'embauche, la rançon de l'emploi. Quelle ne fut pas ma surprise de voir que ma patronne n'utilisait pas le surligneur vert que je suis de cette façon banale et sélective. Pour mon bonheur, elle avait d'autres habitudes. D'abord, quand elle lit un dossier, je ne suis pas dans sa main. Je suis posé dans la station debout, la tête en l'air, coiffé de mon petit chapeau. Je ne risque pas les courants d'air qui pourraient assécher ma salive verte. Ma douce patronne fait son travail sans intervenir sur le papier, sauf parfois par un petit coup de crayon dans la marge verticale qui signale un point important. Celui-ci n'est visible que pour elle. Elle m'a expliqué qu'elle ne souhaitait pas exhiber à tous les regards les choix de son étude. Lorsqu'elle doit commenter un dossier devant des tiers, il lui suffit de tenir compte de ses petits traits marginaux de graphite. Elle fait merveille, tout le monde dit « quelle classe !» Mais alors me direz-vous, à quoi sers-tu?
Oui, c'est un peu la question qu'on se posait, oui. On se dit « mais il fiche vraiment rien !»
À quoi sers-tu, surligneur vert de son cœur? N'es-tu là que pour le spectacle de l'étude? Es-tu un objet magique ou de superstition qui n'agit que du seul fait d'être là? Non. Lorsque ma belle patronne a fini son examen, qu'elle referme le dossier et le range dans sa double feuille blanche, elle avance la main vers moi, me décoiffe et, avec ma langue, dessine une croix sur le papier en haut et à droite, toujours au même endroit, précisément. Elle ne surligne rien, elle marque, elle signale, elle dessine. Elle me recoiffe, me donne un petit baiser sur le chapeau, et me remet debout devant elle. Je suis le marqueur des choses achevées, du travail accompli, de la journée finie.
C'est bien, puis comme vous ne travaillez pas trop, vous allez durer longtemps. Hein.
Éternellement, quasiment.
Bah oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge? Vous surlignez au vert, vous?
Je pense que lui, il sous-surligne. Si j'ose même.
Odile Conseil, vous en avez des surligneurs, vous?
Ah non, pas du tout.
Vous n'êtes pas une femme avec un joli bureau bien rangé, des pots de crayon, des tas d'ustensiles?
Je suis une femme.
La surligneuse, c'est pas vous, alors.
Ouais, non, mais je suis une femme, je m'appelle Huguette Boutefeu, mes initiales c'est HB, oui. Et en fait je suis le crayon.
Ah ben voilà, je parlais du pot de crayon.
Avec sa mine de graphite.
Oui.
Et je m'adresse à tous ceux qui sont sur son bureau, à elle, celle que le surligneur, qui n'a pas le sens politique, appelle sa douce patronne, camarade. Surligneur, taille crayon, gomme, agrafeuse, désagrafeuse, scotch et vous, le peuple des trombones, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus rester inactifs. La situation devient intenable, nous sommes sous-employés, utilisés au dixième de nos capacités, déclassés. Toi, le surligneur qui ne surligne rien, vous, les trombones qui ne trombonnez jamais personne, toi, le scotch avec qui ça ne colle pas, toi, la gomme prête à te faire dégommer, moi, le crayon qui trace d'invisibles marques, disons non, assez, ça suffit. Nous avons été embauchés.
C'est des boulots déqualifiés, quoi.
Nous avons été embauchés avec des compétences précises et reconnues. Notre savoir-faire est inscrit dans notre ADN. Des générations et des générations avant nous y ont contribué et l'on cherche à nous déclasser, à nous rabaisser. Méfiance, les amis. La ruse des employeurs est connue. 1. Je t'utilise peu, puis de moins en moins, puis plus du tout. 2. Je déclare que je n'ai plus besoin de toi. 3. Je te jette dehors, housse, du balai, du vent. Toi, le surligneur qui ne surligne pas, ne te rends-tu pas compte que les croix que tu traces sont celles du cimetière où l'on te conduira bientôt? Toi, la gomme, espères-tu pouvoir effacer ce sombre avenir qui se dessine sous nos yeux? Vous, les trombones, vous pensez vraiment que vous pourrez vous recycler en collier ou en bracelet? Non, mes amis, ne restons pas inactifs. Prenons notre destin en main. Refusons la situation qui nous est faite. Écrivons, surlignons, scotchons, gommons, agissons.
C'est bien, moi j'aime bien le petit côté militant de Dil Conseil.
Moi j'aurais bien aimé avoir des applaudissements. Quand même à la
fin. Oh ben, faut pas rêver non plus.
Non, là, on est tous à la solde du patronat, là-haut.
Ouais, ouais. Bon, alors vous, surligneur...
Le Premier ministre, ce sont les vieux démons de la gauche qui s'expriment. Que...
Voilà. Il en faut une, il y en a une chez nous.
On m'a traité de vieux démons.
Bah, moi, je mens passionnément à mes amis, à mes parents.
Au marchand, à monsieur l'agent, je mens tellement sans mes gênants. Je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs, elle a pas une si grosse. Enfin, j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus, les pas si beaux venus. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement, me dit c'est Johnny que je t'aime. Toi, t'as du talent, hein? À moi? À vous? Merci! Bah, moi, je m'en fiche, je sais plus quand. Je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai l'arc et Johnny Depp. Et bah, il s'en remet travail, il est grand. Il était mielleux, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est pas très joli, je vois pas comment faire autrement.
Carmen Maria Vega, la monteuse. Oh, qu'il fut bon se promener dans un parc en famille, quand viennent les beaux jours. C'est le sujet de ce moment papou sur France Culture. Un parc d'attractions va nous être proposé par Patrice Delbourg. Alors, il n'existe pas encore, c'est un projet. Créateur Delbourg cherche sponsor et il a une bonne idée. Il a travaillé, mais trouvera-t-il des partenaires pour le financement ? Il faudra pour cela que son projet soit vraiment bien ficelé. Alors, parce qu'en fait, nous en avons plein nos archives de ces projets brillants qui n'ont pas vu le jour, comme le Hugo Land, le Cocu Land de Patrick Beignet, pourtant le parc du roman fleuve de Patrice Comon, celui pour les hypochondriaques ou pour les nuls. Mais enfin, je ne veux pas vous décourager, Patrice. Alors, donnez-nous les grandes lignes de ce nouveau parc à thème.
Mais pas Abstem, justement.
Ah, bon.
Ah non,
parce que... On pourra boire, alors.
Oui, parce que c'est un parc en hommage à Jacques Brel.
Ah,
donc,
c'est une bonne idée,
ce
ça.
Ce n'est pas un parc où on boit de l'eau fraîche.
On boit de la bière, quoi.
On boit de la bière. C'est un parc un peu de la démesure, mais qui ne coûterait pas trop cher, quand même.
Mais c'est pas trop pour les enfants, quand même. Remarquez, on peut boire un petit panaché bien blanc.
Si, il y a les enfants, pourvu qu'ils soient un peu timides, on leur fera du panaché.
Voilà. Bon, et ça se situerait où, alors ?
Dans un pays sans doute assez plat. Imaginez un ciel si bas qu'il frôle l'humidité. Poussez la toile estropiée du chapiteau de la Brel Bringue et venez vous installer. Le spectacle va commencer. Sur les gradins escarpés, dans la chaleur épaisse de l'arène, il y aurait des langueurs océanes autour d'un monsieur loyal déguisé en bourgmestre flamingant qui distribuerait des modèles de lettres de rupture à quelques claques-dents transies. Ah, la Brel Bringue!
C'est un beau titre, hein, ça. Ah, ouais.
Ça serait un modeste parc d'attractions près d'une ville endormie. Peut-être Knokle-Zout,
ah oui,
sur un champ plat de houblon, au bout d'un terrain vague, avec des dunes pour arrêter les vagues. Ah oui. Ou bien sûr, sur la Brel Bringue, il y aurait des orages et de gros grains. Un bon polder, quoi. Il y aurait des hôtesses, des petites fanettes, déguisées en chevaux de frise, qui vous conduiraient à travers le dédale de stand, ou d'ostand, comme on veut.
Ouais.
Le dédale de stand en exhibant leur début de scoliose.
Ah bon ? Oui. Il faut avoir les moyens, quoi.
Ah oui, c'est des petites fanettes, mais bon, c'est pas non plus des bunnies.
Oui.
C'est pas non plus des bimbos, c'est des jeunes filles du peuple un petit peu scoliotiques qui montrent leurs atouts, qui montrent leur joli corps. Mais bon.
Et leur vertu.
C'est en devenir. Les prunelles pleines de lambiquets, pleines de télégrammes de drame. Il y aurait là comme un sentiment d'inachevé. Faut dire que ce modeste lunapark devrait être inauguré à la frontière par un premier ministre français. Mais la cérémonie tarderait. Les forains attendraient encore. Certains diraient même que le valse a mis le temps. Les guichets de cette ferrade pour cure solitaire seraient souvent désertés. L'entrée s'afficherait gratuite pour les vieux, les abbés, les mémés décorés comme des arbres de Noël, les plongeurs à l'Alcazar qui se buteraient de comptoir en comptoir aux odeurs de cuisine. Un ticket modérateur serait proposé aux émigrés du bonheur. Une attraction gratuite pour les veufs sans enfants, les cocus qui s'en vantent et les divorcés au tort mutuel. Ah oui, la Brel Bringue saurait chouchouter le club des inconsolables. Ici, la fleuriste ne ferait pas recette. c'est la confiserie qui remporterait la mise. Dame, les berlingots et les pralines sont moins précaires. À la baraque, à l'enseigne de chez Eugène, ça sentirait les churros, la meringue, la gaufre, la pomme d'amour, à s'offrir en partage, la morue et ces frites que les grosses mains des vigiles invitent à revenir en plus cuites. Entrez, entrez, la brêle bringue. C'est la nouba pour les cabossés d'existence. La brêle bringue, c'est la bamboche des désemparés. Dans le son déchiré d'un accordéon rance, on accéderait au retors des timides. Une nouvelle attraction venue de Californie pour donner de la vaillance aux timorés. Chacun se retrouverait plaqué contre une paroi, en nage, une cuirasse sur la poitrine, avec des valises de plomb au bout de chaque main. Une belle attraction, ça.
Ben, sûrement, oui, on voit l'image en tout cas.
Pour les timides uniquement. Oui. Mais les autres sont invités aussi. Un peu plus loin...
Mais, c'est parce que vous avez plutôt toujours l'air de parler des hommes que des femmes. Les femmes peuvent aller visiter la brêle bringue.
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr. Mais elles viennent moins.
Oui, c'est mais bizarre.
Elles ne sont pas foulées à l'entrée.
Bon.
Mais bizarrement, bon, c'est plutôt un parc masculin.
Ouais.
Puis il y a des chiens aussi. Sous un crachin oblique, voici, tiens, le chamboule-tout pour les fiancées qu'on n'a pas eues et qui étaient trop belles pour nous. Alors avec des balles en son, on pourra bombarder les effigies de Madeleine, de Mathilde, de Frida, de Elke, de Margaret. À la suivante ! À la suivante ! Tout peut s'oublier à la brêle bringue. Le désamour, le désarroi, le désaccord et même l'ombre de son chien. Plus loin, de chrysanthème en chrysanthème, la brêle bringue, ça serait la ribouledingue à la bonne franquette. Tiens, il y aurait le bivouac du joyeux Quintal. Chacun y frétillerait du Saint-Doux. Un gargotier à la panse généreuse accueillerait ici ses camarades à trois chiffres sur le pèse-personne. Des frères de Jeff, de Falstaff, des Athos, qui tenteraient de faire bouger leur carcasse en éclusant du vin de Moselle, encadrés par des valkyries blondes qui leur feraient faire des pompes d'une main dans la boue.
Ben voilà les dames.
Oui.
Les dames sont là, je sais pas, elles, vous voyez.
Mais elles sont pas très gâtées.
Ouais, elles ont des rôles importants dans le Luna Park.
Je sais pas, oui.
Et tous ces poussas eudémateux, bouffis de cortisone, qui boufferaient leur paquet de pop-corn, ingurgiteraient des sandwichs à la banane, en faisant de grands pshhh, en faisant de grands chup. Partout ça retrait, ça pèterait, il faut bien que le corps exulte. Chacun attendrait des danseuses, tiens, les voilà, des danseuses de quadrille, de la sarabande des nécessiteux. Pareil qu'il y en a de nouvelles. Ah, la brêle bringue! C'est la kermesse héroïque, le grand raout de nos désenchantements, la braderie de toutes nos mélancolies, le manège de l'inaccessible étoile qui égrainerait sur quelques chevaux de bois amputés, le carrousel de la désillusion. Un Auguste grimé en Don Quichotte lancerait des boules lumineuses à des passagers hagards, juchés sur des astronefs en tôle cabossée. Un train fantôme un peu plus loin, baptisé les remparts de Varsovie, dont les wagonnets tressauteraient sur des rails disjoints, cahoteraient dans des ruines fumantes, chacun sa part de ghetto, vous savez. Et puis, avec des chômeurs déguisés en gorilles.
Bon Dieu, je vais me suicider dans ce parc.
C'est la brêle bringue. Et puis...
C'est tragique.
C'est un parc d'attractions modeste.
Non, mais il n'existe pas encore. Il cherche de l'argent pour le moment.
Pas beaucoup, il n'en faut pas beaucoup. Il y aurait que des chômeurs, il y aurait que des gens nécessiteux, en fait. C'est assez facile à construire une brêle bringue.
Surtout, l'entrée serait quasi gratuite.
Quasi gratuite, oui.
Voilà, symbolique.
On ferait payer juste les flamands. Juste les flamands rosses.
Les flamencos.
Oui, les flamencos. Chacun sa part de ghetto, des chômeurs déguisés en gorilles feraient peur dans les ténèbres à des fausses vierges et à des blondes frémissantes. Faites halte au carnaval des postillons, à la brêle bringue. Un maigre castelet ou un pauvre air édenté sur les paroles de « ne me quitte pas » tenterait d'apprendre au public à articuler devant des glaces déformantes sans asperger les premiers rangs. C'est ça la brêle bringue. Et puis, pendant que les enfants s'amuseraient, il y aurait la garderie des vieux. On les installerait face au marécage. Avec un
bois.
On vous mettra au premier rang, Jacques.
Moi, j'ai bien envie de le découvrir.
Ah bah oui, j'imagine, oui.
On les installerait face au marécage. Avec un boc de bière brune sur leur tablette. Un surplus américain sur les genoux. Les larmes leur perleraient aux paupières. Ils chuchoteraient du bout des yeux. Ils joueraient aux chaises musicales sous la boule argentée qui dirait oui, qui dirait non, qui les attendrait. Ils iraient du pliant au déambulateur, du déambulateur au fauteuil, du fauteuil au lit. Visitez la Brel-Bringue! C'est ça, la Brel-Bringue! La fiesta des Pantois! Devant vos yeux éblouis, ça serait le défilé des vieilles anglaises, des toréadors pédérastes, la parade des amoureux éconduits, des militaires bornés, le grand corso des bigotes et des ténors langoureux, la Brel-Bringue! C'est la fiesta des sentiments, chère aux paumées du petit matin en goguette. Pas besoin de menu monnaie en poche. À chaque stand, on accepte l'échec.
Ah, oh, très joli.
Oui, mais alors les ayants droit vont tout de suite faire un procès en diffamation pour chaque stand, pour chaque phrase de projet.
Il va falloir verser des droits d'auteur, en tout cas, oui, à mon avis. Donc, il faudra quand même faire payer un minimum pour pouvoir s'en sortir.
Ouais. Oh, les paumées du petit matin, c'est quand même...
C'est des expressions, oui. Presque des lieux communs maintenant. Oui. C'est-à-dire que Brel a cette force d'avoir fait entrer dans le vocabulaire du quotidien
exactement.
Toutes les phrases magnifiques qu'il avait
les
en tête.
Les mémés déguisés comme des arbres de Noël,
oui.
C'est tous les jours.
Oui.
Surtout tellement naufragé que la mort paraît blanche.
Eh oui. Alors évidemment, le plus d'argent sera donné pour mettre des mots sur les calicots, parce qu'effectivement, les ayants droit... Ouais. La fille, le fils,
ah ouais.
Ils ne seront pas passés ça.
Non, ce qu'il faut, c'est arriver à leur faire partager le projet. Voilà,
bien
c'est
sûr.
Ce qui serait le mieux, c'est qu'ils investissent.
Qu'ils investissent.
Parce que c'est quand même une excellente idée, ouais. Même ouais. Si, comme vous l'avez dit, on a plutôt envie de s'y suicider.
Oui, c'est
mais...
super, mais il faudrait pouvoir s'échapper en bateau et naviguer un petit peu outre-mer. Pour...
Partir pour les Marquises.
Oui, c'est ça, partir pour les Marquises.
C'est de vous, Brel-Bringue. Je trouve
oui,
ça très joli,
Brel-Bringue.
J'espère que
oui,
c'est de
vous. Peut-être, c'est peut-être
c'est
les deux seuls mots.
Chose.
C'est peut-être les deux seuls mots que je revendique.
Pipipoura, le Brel-Bringue est né. C'est formidable.
Oh, j'y croyais
pas.
C'est
une belle idée. Ouais. Mais il faut toujours croire en la vie.
Mais
vous
c'était
savez,
difficile. Un traînait, Java encore passe. Ou un... Mais un Brel-Bringue, c'était pas facile.
Ben non, parce qu'il y a une profonde nostalgie.
Ah,
et
oui,
donc,
plus que ça, peut-être.
Je pense que c'est fait pour les gens qui ont une telle gaieté en eux-mêmes qu'un jour, une journée, quelques heures de nostalgie
oui, quelques
les tentent.
Minutes de Brel-Bringue.
Quelques minutes. Alors, ben, il y a Ricardo Mosner qui travaille au Brel-Bringue. C'est vous qui l'avez embauché ou vous avez un DRH?
Non, je sais pas comment il est arrivé,
ah,
d'ailleurs.
Ça,
je vais vous expliquer.
Oui.
Ouais.
C'est étrange, d'ailleurs. Faut que je m'occupe de son cas, un peu. Je sais pas comment il est arrivé là.
On va voir si c'est un bon travailleur, si vous êtes cadre supérieur au Brel-Bringue.
Je suis Big Jack de la société de communication La Vie en Rose. J'étais chargé des missions par les maires d'Ostende pour relooker Brel-Bringue.
Déjà, il faut le relooker à peine sorti de terre, et ouais, ça ouais, va ouais, déjà ouais, pas.
Ouais, ouais. Un ah, parc ouais. sinistre qui a fait fuir une grande partie de la population,
ah.
Et dans lequel aucun touriste mettait les pieds, malgré son entrée gratuite, et la distribution des roll-mops pour les hommes, et d'une frite par enfant.
Oh, c'était pas très généreux, il faut bien dire ce qui
est. Et pour les femmes, rien, c'est plaignait les chamariecs.
Ouais.
Alors, des changements, j'en ai fait pas mal. On a peint tout en rose, déjà.
Ouais.
J'ai remasterisé la musique avec des arrangements pop. On a gardé l'image de Brel, une grande photo à l'entrée.
Ouais.
Mais actuellement, il est bien maquillé, sans une goutte de sueur. J'ai préservé les côtés modestes du parc, qu'aujourd'hui s'appelle un grand parc pour des petits gens. Maintenant, il peut pleuvoir, neiger, les bourgeois viennent et les célibataires ne partent pas la bite sous le bras comme dans les tangos funèbres. Il y a des balles avec des call girls, par-ci par-là, des sites de rencontres, des galeries marchandes. On a installé des salons de coiffure et des salles de repassage, des billards, des jacuzzi, des salles de bodybuilding, sans oublier les côtés familiers. Donc il y a des garderies avec des jeux électroniques pour les enfants. On a installé donc dans un grand parc pour des petits gens. Pour un abonnement, notre parc dure de 1 à 7 jours. Vous pouvez assister au dancing et au showcase à la fin du parcours de ce joyeux shopping center. Aussi, vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur toutes les grandes marques. Les petits gens dépensent beaucoup d'argent quand on leur propose des affaires intéressantes. Je crois que Jacques Brel aurait apprécié. En tout cas, on est ravis de pouvoir utiliser son nom pour notre honorable entreprise et égayer un peu l'esprit belge pour nos visiteurs internationaux. Des masques de carnaval à l'affiché de Jacques Brel sont offertes gratuitement à la sortie pour ceux qui ont consommé pour plus de 750 francs belges. Alors venez à notre énorme parc pour les Minus, les parcs qui ne vous quittera jamais. Ceci est une recommandation du syndicat d'initiative de la ville d'Ostende.
Donc vous avez tout démoli, quoi, tout ce qui mais faisait non, le charme.
On a
charme,
gardé tout,
enfin...
mais on a mis ce qui manquait un petit peu pour faire venir les gens. Car on est très, très fiers d'avoir Jacques Brel dans notre ville d'Ostende.
Ouais.
Mais les choses se sont beaucoup changées. Il avait toujours les pantalons froissés, ça fait beaucoup critiquer. Les gens ne voulaient pas venir. Donc on a gardé l'esprit, l'essence de Jacques Brel, mais dans un contexte joyeux, Françoise.
Oui, oui, je dirais que c'est autre chose, quoi.
Autre chose. Il y a quand même quelque chose qui est difficile à avaler pour les ayants droit. C'est des salles de buddy-building.
Oui.
Ah, oui, Jacques Brel aurait détesté ça.
Mais c'est qu'ils l'ont demandé. Vous savez qu'en sont les générations suivantes, ils ne respectent jamais.
Pour le reste, je suis d'accord. Qu'on le maquille, qu'on enlève la sueur, qu'on le recoiffe, qu'on mette des plis à ses pantalons. Mais la salle de buddy-building, ça, c'est pas possible.
Bon, c'est autre chose. Mais je pense que vous allez dégager très vite parce qu'apparemment, il y a une autre équipe.
Non, tant que les chansons conciliantes, on les garde.
Tant qu'il ne fait pas de vagues. Alors bon, on a quand même une visiteuse, Eva Almassi, qui a dû visiter avant le
bien entendu, avant, mais ne soyez pas d'accord avec ce relooking de l'extrême, parce que même si je suis une visiteuse, j'ai aussi un peu d'intérêt financier là-dedans.
Ah bon, oui,
donc
alors,
là, je suis finie. Je suis finie. À la belle bringue, on n'y vient pas seul, en tout cas pas moi. Déjà, pour la raison susdite, qu'il y a un danger de se flinguer,
oui.
J'ai dit tout à l'heure, comme seule issue de la visite. Mais moi, justement, je suis psychothérapeute. J'y conduis des groupes spécialistes de la désintoxication, oui, des groupes de jeunes femmes amoureuses de Brel, mais à tel point qu'elles sont non seulement intoxiquées de ses chansons, mais de tous les détails de sa biographie. Tout l'argent qu'elles économiseront grâce au prix modique de l'entrée à la Brel Bringue, auquel s'ajoutent naturellement mes 70 euros d'honoraires pour la séance, elles dépenseront en 33 tours CD, DVD, livres sur leur unique héros. Sachez qu'il existe des albums photos en noir et blanc, bien sûr, si lourds et si volumineux qu'elles devront payer un supplément de bagages. Donc, c'est pas, vous pensez que c'est donné, mais pas du tout. On s'achète des bonbons et puis on s'arrête à l'échoppe Frifri, les frites de Frida, les frites belges. On fait leur entrée au patrimoine de l'humanité, alors que personne ne dise que la Brel Bringue n'est pas un parc culturel.
Ben voilà, il y a une découvreuse quand même beaucoup plus intéressante parce qu'elle est rentrée dans votre projet.
Oui,
quoi.
Oui.
Donc, et puis elle amène des gens puisqu'elle gagne sa vie comme ça.
Elle amène des gens, elle amène des quarts de blondes peroxydées, bon, pourquoi pas.
Mais non, je me suis inspirée d'une de mes amies réelles et en fait c'est moi qui paye des suppléants de bagages parce qu'il faut lui apporter tout à Budapest, tout ce qui concerne Brel. Je dois racheter et lui amener.
Ah oui.
Elle en est folle, sa famille n'en peut plus.
Mais il faut trier quand même les visiteurs. Hein.
Bah, et le personnel aussi. Apparemment.
Hein. Oh, lui, il est déjà viré. Lui.
Vesoul, version Ginas Buch. On se quitte sur un joli dimanche, imaginé par Lucas Fournier, clin d'œil à ce jour qui nous réunit Un joli dimanche à la manière de Sacha Guitry. Lucas.
Le dimanche, ce n'est pas joli, non, c'est charmant. C'est délicieux. Mon Dieu, et ça a quelque chose de désarmant. Au théâtre, ce jour-là, le dimanche après-midi, on joue en matinée. Il n'y a pas de quoi s'étonner, c'est que les matinées du dimanche sont si grasses qu'elles débordent jusqu'à l'après-midi. Le dimanche est béni de Dieu doublement. Il y a ceux qui croient, évidemment, et ceux qui croient, croient que le dimanche est le jour du Seigneur. Mais ceux qui aiment savent que ce jour-là tout entier est voué au bonheur, à l'amour du théâtre et des femmes. Et quand je dis femme, je ne dis femme pas. On peut y aller deux fois, en matinée et en soirée, au moins deux fois dans la journée. On commence dans la baignoire et c'est toujours très bon. On finit au balcon, imaginez un peu la scène. Je parlais du théâtre et des femmes à la fois. Il n'y a rien d'obscène. Le dimanche est le jour où l'on va au bois, et cela aussi est extrêmement plaisant. Les marronniers gardent leur feuillage de la semaine, mais les femmes non. Elles promènent une indolence insolente ou une insolence indolente. Enfin, les voilà parfaites. On ne sait vraiment plus où donner de la tête. Je me rappelle, les souvenirs se ramassent à l'appel. Oui, je me rappelle, comment s'appelait-elle donc ? C'est bête, je la revois, mais je ne peux pas là, mais bon, peut-être Yvonne au bois de Boulogne, au bord du lac, avec son petit chapeau bleu et son sac. Ou c'était cela son prénom, Yvonne ? Ou peut-être non, Susan alors, dans le bois de Meudon. Oui, Vincennes avec Irène. Oh, je ne sais plus, mais les femmes le dimanche sont les reines. Il y a des bois partout et cela ne me laisse pas de bois. Au bois, s'il fait beau, on fait deux dos sur l'herbette. C'est mieux que d'avoir l'air bête en faisant dodo. Mais s'il ne fait pas beau, ou s'il a plu, ce n'est pas mal non plus. On reste dans l'auto, bien au chaud. Et ma foi, dans les transports qui ne sont pas très communs, le dimanche, on a comme un transport de l'esprit et des sens. Ce jour-là, le corps des femmes est très conducteur du dimanche. Le dimanche, on s'habille et l'on se déshabille. On s'habille souvent bien pour pouvoir se déshabiller souvent très vite. Si la situation vous y invite. Et puis, ce qui est bien dans le dimanche, c'est qu'on sait qu'il reviendra, oui. Les femmes, c'est inouï, on ne sait jamais ce qu'en 7 jours elles peuvent nous faire comme tour. Je me méfie d'elles. Le seul qui nous soit toujours fidèle, c'est le joli dimanche. 52 fois dans l'an, 52, oui, comme dans les jeux de cartes. Ce jour-là, ma carte, elle est toute blanche.
Oh là là, on croirait qu'il a joué le rôle de Guitry toute sa vie.
Si dimanche m'était compté.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Tressart avec Anne de Pelchin et Manuel Couturier à podcaster sur franceculture.fr. Et pour les renseignements sur notre émission publique de vendredi prochain, 5 mai, à la Maison de la Radio, direction la page des papous du jour, toujours sur franceculture.fr. Et puis aussi notre page Facebook où vous pouvez nous rejoindre. Au revoir, passez un bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en très bonne compagnie.